Vous écoutez Radio Campus 106,6 FM. Si vous avez écouté l'émission Campus Il Info qui précédait, eh bien voilà, je pense que vous avez compris que la société évolue et les technologies, ben j'espère qu'elles vont rester au service de l'homme pour en faire des choses passionnantes. Voilà, peut-être un petit débat qu'on va mener avec des jeunes qui sont ici présentes autour du micro, qui sont venus passer quelques vacances à Radio Campus. Donc voilà, on les accueille, on est très heureux de les accueillir. Donc dans l'ordre d'apparition, on va dire, hein, il y aura Grégoire. Bonjour Grégoire.
Bonjour.
Alors Grégoire, toi tu es en DUT, information communication, à l'IUT de Besançon.
Oui, c'est ça.
Et donc on va avoir besoin de tes lumières, hein, par rapport à justement tout ce qui est dit sur les antennes et puis aussi la vision du monde telle qu'elle se dégage des médias par exemple, ou de la presse, enfin les médias en général. Hein. Alors nous avons également avec nous Benjamin qui est en troisième dans un collège près de Valenciennes. Bonjour Benjamin.
Bonjour.
Voilà, bienvenue à Radio Campus. Tu es là depuis lundi si je crois.
Oui, c'est exact.
Depuis lundi. Hein. Et également avec nous, Evie, qui est de Nottingham, en Angleterre. Bonjour, Evie.
Oui, bonjour.
Heureux de t'accueillir aussi pour tes vacances. Tu es en vacances, là?
Oui.
Très bien. Tu découvres le monde de la radio, le petit monde de Radio Campus, en l'occurrence. Oui. Hein. D'accord, restons raisonnables. Alors, donc le débat, eh bien, on l'a un petit peu lancé avec ce que vous avez pu entendre tout à l'heure, c'est-à-dire un grand développement des technologies, un grand développement de l'image et tout ce qui est lié à l'image, et l'humain dans tout cela. Ça va être de ce thème dont, si vous voulez bien, dont nous allons parler maintenant, c'est-à-dire est-ce que les technologies servent l'homme ou l'isolent des autres hommes du monde. Enfin voilà, comment on peut se sentir ou se ressentir au travers ces technologies et de leurs effets, bien sûr. Alors Grégoire, toi qui es en information communication, j'imagine que cette thématique hein, sur les outils de communication, les nouveaux outils, les nouveaux médias, t'intéresse?
Oui, absolument. Moi, c'est les principales choses qu'on voit en cours.
Alors, est-ce que tu es entré dans cette formation avec déjà une idée? Est-ce que tu allais chercher quelque chose de précis pour en faire quoi?
Une idée de la communication, comment elle se construit dans les médias, comment l'information est transmise, transformée et voire par extension utilisée.
Voilà, donc tu vas être un précieux secours pour donc Benjamin et Evie qui vont nous proposer et nous présenter leurs problèmes. D'accord. Alors Benjamin, toi tu es en troisième. Comment les jeunes communiquent-ils quand ils sont en troisième? Comment tu peux nous présenter un peu les choses? Nous on est complètement déconnectés, t'imagines, à mon âge. Hein. Alors présente-nous dans une classe ou après la classe, comment vous communiquez, pour faire quoi et qu'est-ce que tu peux en déduire?
Alors étant au collège, on communique énormément sur les réseaux sociaux, en général, oui. Donc Facebook, Instagram, Twitter, quoi. Et en cours, parfois on se lance des petites boulettes de papier pour communiquer. Et voilà quoi.
Est-ce que tu as une position sur le fait que pour être inscrit tout au moins sur des réseaux sociaux, il va falloir avoir un certain âge? Que penses-tu de ça?
Je pense surtout que c'est la maturité qui fait la chose, il me semble.
Oui. Alors, comment on pourrait avoir un diplôme ou un certificat de maturité?
Il faut juste... C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les réseaux sociaux sont assez dangereux, mais c'est assez bien protégé, je trouve. Et à partir d'un certain niveau de maturité, on peut se dire qu'on est prêt, je vais dire, pour aller sur ces applications.
Alors c'est vrai qu'en fouillant un peu, on rencontre sur ces réseaux sociaux des gens qui sont parfois âgés et qui n'ont pas vraiment une maturité on va dire, très intéressante. Enfin, on les sent quand même un petit peu limités et très au premier degré sur leurs propos, parfois même polémiques. On peut imaginer des gens qui racontent vraiment n'importe quoi sur les réseaux sociaux.
Oui, oui, après, on trouve de tout sur ce terrain-là. Et c'est surtout les jeunes qui sont très présents sur les réseaux sociaux et qui racontent un petit peu leur vie, même trop parfois. et qui mettent des conneries, effectivement, de temps à autre, oui.
Alors, je ne sais pas si tu as vu, hein, mais il y a plusieurs exemples récents de gens qui ont écrit des choses sur leur blog, sur Twitter ou sur je ne sais pas, et à qui on reproche maintenant d'avoir écrit ça il y a un an ou deux, et les gens vont fouiller dans les blogs, dans les plateformes comme ça pour savoir cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a écrit, qu'est-ce qu'on peut en déduire, comment on la juge.
Je pense que beaucoup de gens mettent des choses sur les réseaux sociaux sans vraiment se rendre compte de l'importance et de ce que ça peut leur apporter au futur et des problèmes que ça peut leur poser.
Alors Grégoire, est-ce que toi, par rapport à ce problème-là, tu aurais des conseils à formuler dans la mesure où tu as déjà, on va dire, 4 mois, 5 mois, presque 6 mois là de cours autour de l'information et de la communication? Qu'est-ce que tu pourrais dire aux auditeurs?
Ce qui est posté sur Internet reste sur Internet et c'est très difficile, voire impossible de s'en débarrasser. Tout ce qu'on publie, nos opinions, ouais, que ce soit que ça peut aller des opinions politiques, personnelles, à propos d'une institution, d'une collectivité ou d'une personne en particulière, ben ça reste, tout ça reste et ça peut même devenir un gros poids, surtout au moment d'arriver sur le marché du travail. Mais ça peut vite arriver que des opinions qu'on avait quand on était plus jeune et pas assez matures, justement, on en revient à la question de la maturité sur les réseaux sociaux, que ben, ça nous porte préjudice dans le futur, parce que les banques de données sont énormes et justement, toutes les plateformes gratuites de communication et d'information gratuites, ben, je pense ben, tous les médias sociaux classiques comme Facebook, Twitter, Instagram, qui sont gratuits, reposent leur chiffre d'affaires sur bah, la vente de ces données, la vente de toutes les informations que les gens postent de leur plein gré dessus et font leurs chiffres, fonctionnent sur ce modèle économique-là. Donc c'est des informations qui sont très précieuses et qui sont conservées. Donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on met, de rien mettre de trop choquant, tout ce qui peut porter à polémique, il faut être relativement frileux.
D'accord. On va demander maintenant à Evie, qui est avec nous, qui vient, on l'a dit, de Nottingham, qui va s'exprimer avec un langage qui n'est pas encore complètement abouti en français, mais ça vient. Hein. Tu es ici pour améliorer ta langue française.
Oui, j'adore la langue de français parce que je pense que c'est très beau, mais c'est très difficile d'apprendre beaucoup de la grammaire et tout le vocabulaire, mais c'est intéressant d'apprendre à l'école de.
Très bien. Alors, toi, tu habites en Angleterre d'une manière générale, d'accord? Donc, tu communiques avec des Anglais, je suppose, avec tes amis. Est-ce que tu utilises les réseaux sociaux?
Ouais, les réseaux sociaux sont très populaires en Angleterre, comme l'Instagram ou Facebook. Et surtout Snapchat est très populaire avec les jeunes en Angleterre.
Est-ce que tu en profites parfois? Par exemple, là, tu es venu en France pour communiquer aussi avec des Français, des jeunes Français, par exemple.
Oui, c'est plus facile de parler avec les personnes de les autres pays avec les réseaux sociaux.
Est-ce que tu peux leur demander, par exemple, bon, je vais venir à Lille, comment ça se passe à Lille? Est-ce que tu peux avoir aussi des renseignements comme ça par des gens que tu rencontres par hasard sur la toile?
Pardon?
Est-ce que tu peux avoir l'occasion, par exemple, de te renseigner avant de venir à Lille, ici, tu es venu à Lille. Est-ce que tu as pu contacter des jeunes de Lille pour savoir comment ça se passe à Lille?
Oui, beaucoup de mes amis ont contacté les personnes qui ils sont travaillé avec cette semaine et je pense que c'est très utile.
Très
Oui.
bien, oui. Donc, est-ce que toi, tu vois en Angleterre par rapport à en France une différence de goût, de pratique pour les jeunes, ou est-ce que tu dis que ce soit en Angleterre, en France, en Allemagne, les jeunes ont les mêmes centres d'intérêt et les mêmes techniques de communication?
Oui, jusqu'ici, je n'ai pas vu une différence avec les gens en Angleterre et France concernant comme les réseaux sociaux. Mais je pense qu'il y a probablement beaucoup de différences.
La langue française pour toi, tu sembles t'y intéresser. Est-ce que pour les Anglais, le français, ça a encore une valeur?
Oui.
Pour faire quoi, par exemple? Dans quel domaine le français est encore intéressant pour les Anglais avec le Brexit?
Oui. Je pense que sur la culture de France, c'est très intéressant pour les Anglais parce que c'est très différent, mais il y a aussi les similarités.
Oui. Donc quand tu viens en France, tu n'es pas trop coupé du monde. Tu restes dans un univers que tu maîtrises. Enfin, tu n'es pas perdu quand tu viens en France.
Oui. Il y a des situations quand je file. Je pense que c'est très différent, comme la rencontre avec les Français est très différente. En anglais, c'est beaucoup moins gentil.
Ah oui.
Oui. Quand dire bonjour, quand vous rencontre avec les autres personnes, c'est aussi comme en Angleterre.
Tu veux dire que les Anglais, enfin les jeunes Anglais, puisque bon, je suppose que tu parles des jeunes, sont plus froids en Angleterre? Ils aiment pas trop parler, s'engager, engager la conversation?
Je pense que c'est plus les adultes qui est plus froid en
Oui,
Angleterre.
d'accord. Pourquoi, à ton avis?
Je sais pas, je pense que c'est sur la culture.
C'est la culture, oui.
Oui.
Moi, j'ai connu l'Angleterre dans les années 60-70, tu vois, 1960-1970. Et à l'époque, il y avait le Swinging London, tu vois.
Oui.
Et c'était un moment extraordinaire où les Anglais ont trouvé les gens là-bas très intéressants par la musique et par le comportement qui était très différent. Peut-être ils semblaient un peu plus, comment je peux dire, original.
Oui.
Est-ce que les Anglais, enfin les Londoniens, sont encore originaux?
Pardon?
Est-ce qu'ils sont encore différents? Enfin, c'est des gens un petit peu bizarres, un petit peu étonnants, avec une façon d'aborder les choses avec beaucoup d'humour, peut-être un petit peu de distance aussi par certains côtés. Un peu froid parfois, mais en même temps avec l'humour anglais. Tu vois ce que je veux dire? Humour, humour, English humour, ça existe? Encore beaucoup? Oui. Toi, est-ce que tu as de l'humour? Oui, je te vois sourire là. Donc, tu as déjà de l'humour. C'est garder dans le comportement anglais, d'avoir du recul et prendre les choses de manière un peu décalée, à côté, parfois, non? Pas toujours dire les choses directement, mais j'avais un prof d'anglais, il était extraordinaire. J'adorais l'anglais avec ce prof-là parce qu'il avait toujours de l'humour quand il présentait des choses. Tu ne savais pas s'il riait ou s'il plaisantait ou s'il disait des choses normales, quoi. Donc, on se demandait toujours, est-ce qu'il dit des choses, par exemple, si il te faisait une remarque, est-ce que c'était vrai au premier degré ou au deuxième degré ou au troisième degré? Et c'était toujours très surprenant d'être avec ce prof en anglais.
Oui.
Tu vois ce que je veux dire, l'humour anglais? Un peu?
Un peu, oui.
Ouais. Voilà. Donc toi, comment ils sont tes profs? Puisque toi, tu es en quelle classe? En première, classe de première
Oui.
avant le bac, on va dire. Il te reste un an encore au lycée, d'accord? Comment tu ressens ta relation avec tes professeurs?
La relation avec les professeurs à l'ICI est très différente à l'école. Avant, parce que c'est beaucoup plus relax, mais je sais qu'à l'université, c'est plus relax. Alors, le professeur est une petite professionnelle.
Est-ce que tu aimes bien tes professeurs?
Oui, pas tout, mais beaucoup de mes professeurs, j'aime, oui.
Est-ce que tu peux leur parler facilement ou est-ce qu'ils n'aiment pas ça?
Oui, pas tous les mon professeur, mais beaucoup de leur est très facile de parler avec.
Alors, comme je te dis, moi j'adorais mon prof d'anglais quand j'étais en sixième et je me suis tout de suite beaucoup mis en anglais, je me suis mis à l'anglais. J'étais premier en anglais dans ma classe, tu vois, j'étais très fier d'être premier. Mais après, j'ai eu d'autres professeurs moins intéressants et ça m'a moins intéressé l'anglais. Est-ce que tu trouves, toi, que le professeur est très important pour faire aimer la matière que tu apprends?
Il y a des professeurs comme, je ne sais pas en français, mais en Angleterre, ça s'appelle head of year. Et c'est très important de s'entendre avec leur cas. Ils aident avec les problèmes personnels comme avec la maison, etc.
Professeur un peu référent hein, pour toi, qui s'il y a un souci, c'est lui qui intervient, qui t'aide quand tu as un problème.
Ouais.
Voilà. Donc, est-ce que les cours que tu apprends, hein, est-ce que ça t'ennuie ou est-ce que tu trouves ça très intéressant?
Oui.
Oui, quoi?
Oui, je pense que tous les sujets que je studie sont très intéressants, mais ma préférée est vraiment français et anglais.
Le français et l'anglais, tes matières.
Oui. Et
alors,
philosophie.
Si je te dis, par exemple, histoire, ça t'intéresse, l'histoire?
Oui, j'aime l'histoire, mais je trouve ça difficile d'écrire des histoires. Oui.
Est-ce que l'art, ça t'intéresse, la peinture, tout ça?
Oui, ouais. Mais je ne suis pas trop bien.
Pas trop. Qu'est-ce qu'il y a à Nottingham d'intéressant comme équipement pour aller voir les musées ou des choses?
Oui, le musée en Nottingham est très bien. Mais la musique de Nottingham est très bien à le moment. Il y a beaucoup de petits groupes qui sont vivement en train de croire.
Il y a un grand festival chaque année, un grand festival
de
musique.
Oui, il s'appelle Splendor. Oui.
Ouais, c'est extraordinaire. Ah, oui. Ouais. Donc tu sors, tu peux sortir, c'est facile. Toi, tu as 16 ans, on va dire.
Ouais. Oui, c'est pas facile de sortir quand vu à 16 ans, mais quand j'ai 18 ans, c'est facile.
D'accord.
Oui.
Donc tu es contente de pouvoir profiter du festival quand ce sera le moment. C'est quand le grand festival? À quelle date?
C'est normalement le fin de juillet.
Et tu nous conseilles d'y aller?
Pardon?
Tu trouves que ce serait bien qu'on aille là-bas
et
voir le festival?
Oui. Oui.
D'accord. Qu'est-ce qu'on mange aussi dans ta ville à Nottingham? Il y a des choses particulières ou...
Il y a plusieurs variétés, je ne sais pas. Oui, beaucoup de les restaurants, c'est son chain, je ne sais pas en français. Mm. Alors, beaucoup de les restaurants qu'on a en Nottingham ont tout l'Angleterre. Oui.
D'accord, des chaînes de restaurants.
Oui.
Il n'y a rien de très original, c'est ce que tu veux dire.
Oui.
Et est-ce que tu fais la cuisine, toi?
Pour moi, ma cuisine préférée est probable sur la pizza, etc.
Ouais, oui. Mais tu sais faire quelque chose? Tu aimes bien faire quelque chose de particulier? Un plat que tu aimes?
Oui, j'aime jouer guitare.
Ah non, mais je te parle de manger. Hein.
Non,
la guitare,
manger,
c'est autre chose. Oui, les plats.
Oui.
Pardon. Some food you like to do.
Oui. J'aime la pizza et j'aime... Je travaille en pizzeria.
Ah
alors.
Oui, d'accord.
Oui.
Ah oui.
Et j'aime l'indonésie et les frites.
Les frites, oui. Donc tu dis tu travailles dans une pizzeria.
Oui.
Est-ce que beaucoup d'élèves de lycée travaillent
oui,
dans...
Oui, oui. Oui. C'est, le plupart est élèves. Oui. Oui.
Les études sont chères quand tu es au lycée. Est-ce que ça coûte cher pour payer la... l'inscription?
Le payer à travail?
Non, quand tu vas étudier pour entrer dans le lycée, est-ce que tu dois payer sur l'année?
Non,
c'est gratuit.
Oui.
D'accord. Et en France, c'est assez rare les lycéens qui travaillent. Enfin, il y en a, mais c'est relativement rare. Est-ce que c'est à partir de quel âge on peut travailler dans les pizzerias ou autres?
Oui, je sais beaucoup de personnes qui travaillent, car c'est sur le samedi, alors c'est pas
le week-end.
Une... Oui.
D'accord. Et à partir de quel âge on a le droit de travailler en Angleterre?
Pardon?
À partir de quel âge? Par exemple, 16 ans, 17 ans, avant, tu peux aussi, non? C'est quoi la limite?
Je pense pas qu'il y a une limite, non.
Ah oui, bon.
Je sais D'accord. pas. Je pense que c'est possible que c'est 14 ans.
Ah ouais, quand même.
Oui.
Oula. Bon, en France, on est sur une autre logique, bien sûr.
Ah oui.
Hein, parce que, a priori, avant 18 ans, c'est compliqué. Il faut avoir un contrat d'apprentissage, des choses comme ça. Enfin, voilà. Donc, on n'est pas sur des législations identiques, c'est clair.
Oui.
Hein. Merci, Evie. Tu interviens quand tu veux dans ce débat. Hein. Alors, on va faire parler Benjamin, qui est en troisième, on l'a dit, hein, dans une classe près de Valenciennes, dans un collège. Est-ce que toi, par rapport à ce que vient de dire Evie, il y a des choses qui te semblent très différentes et qui, pourquoi pas, que tu trouves intéressantes ou pas d'ailleurs? Tu peux me dire?
Je trouve intéressant les rapports entre les professeurs qu'elle nous disait, car je trouve qu'en France, c'est plus strict, je dirais, avec certains profs. Bon, après, il y a des profs qui sont beaucoup plus cool, effectivement, oui. Mais oui, je trouve qu'il y a beaucoup de différences entre nos deux pays, oui.
Donc, elle te disait qu'elle travaillait le week-end. Est-ce que toi, tu imagines pouvoir travailler quand tu auras 16 ans ?
Quand j'aurai 16 ans, oui, oui, avec des contrats d'apprentissage, par exemple, ou même au lycée, des trucs comme ça, oui. Mais là où je suis, là, maintenant, non.
D'accord. Donc, toi, tu es passionné par quoi, d'une manière générale ?
Je suis plus passionné par la télévision, par les médias télévisés, oui, que j'admire beaucoup.
Bon, là, tu découvres la radio, en fait.
Oui, un petit peu, oui.
Ton impression depuis lundi, comment ça se passe ? Qu'est-ce que tu ressens d'une radio en vrai ?
J'aime beaucoup ce stage que je fais. J'ai appris beaucoup de choses depuis le début. Et c'est un métier qui me passionne vraiment, oui.
Donc, tu as bien compris la spécificité de ce média radio par rapport à la télévision, par rapport à... Comment tu vois la différence une fois que tu es dedans, par exemple ? Est-ce que tu imagines une relation à l'auditeur qui est très différente de celui qui fait de la télévision, par exemple ?
Ah oui, oui, par le fait que déjà qu'à la radio, on ne peut pas voir ce que l'auditeur dit. C'est plus de l'imagination, je dirais. On doit presque imaginer ce que l'auditeur dit à la radio, contrairement à la télé. Oui.
Voilà, et donc aussi... Quand toi, tu parles à la radio, l'idée, c'est de créer des images, de proposer des images aux auditeurs qui peuvent s'en emparer et aller plus loin que ce que tu proposes au départ.
Voilà, on est dans l'idée d'imagination.
Donc, imagination, imaginaire, on peut peut-être demander à Grégoire, hein, de, vu de l'IUT, est-ce que pour toi, la spécificité de la radio fait qu'on peut y dire des choses autrement que dans d'autres médias ?
Ah oui, absolument. D'ailleurs, ça me fait penser à un film de Woody Allen où justement un enfant qui écoute la radio s'imagine lui-même. Il s'imagine un autre monde et il s'imagine la radio à sa façon, de son point de vue d'enfant. Et du coup, le point de vue de Benjamin me fait beaucoup penser à ça. Mais ouais, sinon, je pense vraiment que déjà la radio est un média qui s'écoute, où l'information se transmet plus facilement. Enfin, c'est simple. C'est un rapport entre l'auditeur et l'animateur. Ça s'écoute dans la voiture, ça s'écoute facilement, ça, beaucoup plus facilement que la radio ou le journal télé. Il y a des podcasts, je pense que c'est un média plus abordable, moins populaire, mais plus abordable que la télévision, par exemple.
Alors Benjamin, quand on est en troisième, est-ce qu'on écoute réellement la radio ? Sur quel support ? Ou est-ce qu'on a d'autres choses à faire dans la vie ?
On écoute la radio, oui, quand on peut en général, avec nos devoirs, c'est parfois un peu compliqué, mais on écoute la radio, oui, des radios populaires qui sont les plus écoutées, oui, mais ça nous arrive d'écouter des radios qu'on écoute moins et qu'on découvre de jour en jour, oui.
Sur quel support tu écoutes la radio ?
Sur mon radio réveil.
Ah oui, d'accord, oui. Donc la FM ?
Oui, effectivement. Oui.
Est-ce que, Evie, en Angleterre, il y a encore la FM ? Ça existe encore ?
Oui.
Tu sais qu'en France, on a la FM, mais on va passer aussi à la TNT, à la RNT, Radio Numérique Terrestre. Je ne sais pas si vous avez aussi la Radio Numérique Terrestre en Angleterre.
Oui, je pense que c'est le même, oui.
D'accord. Et il y a beaucoup de gens qui écoutent sur la RNT ou pas ?
Oui, la radio n'est pas très populaire en Angleterre, c'est plus dans le background, je ne sais pas si c'est le même. Mais beaucoup de gens écoutent assez la radio quelquefois.
D'accord. Donc toi, qu'est-ce que tu aimes à la radio ? Entendre des gens parler ou écouter de la musique ?
Je préfère qu'on ait la musique avec un bout de parler, oui.
Est-ce qu'il y a beaucoup de chaînes radio, hein, musicales très différentes ? Par exemple, qu'est-ce que tu aimes comme style de musique, toi ?
J'aime le rock classique. Oui. Oui, mais quand j'écoute à la radio, j'aime quand ça a une variété, ou plusieurs variétés, car j'aime écouter les chansons nouvelles.
Les nouveautés, oui, ouais, d'accord. Il y a un artiste, là, actuellement, que tu nous conseillerais d'écouter ? Qu'est-ce que tu aimerais nous faire connaître ?
Si j'ai à voir des choses en entier, c'est probablement Led Zeppelin ?
Oui. Ah, c'est pas nouveau, ça.
Oui.
Et dans les artistes actuels, maintenant, qui est-ce qui est...
Maintenant, oui, ouais. J'aime Little Comet. C'est un petit groupe d'Angleterre. Il est assez petit. Et un artiste s'appelle Declan McKenna. aussi anglais.
Très bien. Écoute, peut-être tout à l'heure, tu peux nous trouver ça. On essaiera de diffuser un titre de tes conseils. Tu vas nous conseiller, d'accord? Un petit programme musical de Nottingham et de l'Angleterre en général. Est-ce que Nottingham, en termes de musique, il y a des influences qui viennent de partout dans le monde? Il y a des communautés? Comment ça se passe?
La musique en Nottingham?
Ouais, ouais.
Je pense qu'il y a... Again, plusieurs variétés, mais le genre qui est très populaire en Angleterre, c'est comme indie, je ne sais pas si c'est indie. Le même, comme indie rock. Oui.
Mmh, d'accord, très bien. Bon, alors on va découvrir tout à l'heure tes propositions, d'accord? Alors Benjamin, toi, dans ton collège, est-ce que les jeunes se mobilisent autour de la musique et sous quelle forme?
Ça dépend beaucoup des étudiants. Il y en a qui écoutent plus ou moins la musique, même voire pas du tout. Mais on en parle beaucoup au collège, oui, notamment dans les cours de récréation ou dans les pauses entre les midis. Et c'est quelque chose qui influence beaucoup les jeunes, je trouve.
Est-ce qu'on reparle, par exemple, d'un animateur qu'on a écouté le matin ou la veille? Ah, il a dit ça.
Oui, ça arrive de temps en temps, oui, qu'on débatte d'une émission télé ou alors de quelque chose qui s'est passé à la télé, oui.
Est-ce que dans ton collège, il y a des expériences de radio?
Non, il n'y a pas d'expérience de radio.
Ah, c'est dommage.
Oui.
Voilà. Donc, de toute façon, je ne sais pas si tu es au courant, mais en ce moment, on se rend compte que dans le système de formation des jeunes, il y a quand même de grosses difficultés pour notamment l'expression, le langage. Est-ce que tu crois que apprendre... être sensibilisé aux techniques de la radio, ça pourrait vous aider à évoluer dans votre pratique de la langue française et aussi de la compréhension de cette langue et de son utilisation plus fine, plus précise.
Oui, je pense que la radio est un très bon moyen de communication et d'apprendre à mieux communiquer, parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes parler en langage SMS et ça coupe un peu la communication comme on pouvait le voir avant. Et je trouve que la radio rétablit très bien cette communication.
Alors, tu parles des jeunes et des SMS, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des espaces quand même où les jeunes peuvent se rencontrer et vraiment parler avec des phrases complètes?
Je ne pense pas vraiment aujourd'hui, non. Avec les réseaux sociaux, c'est très occupé, oui.
D'accord. Alors, Grégoire, tu vois, là, on a fait un état des lieux. Alors, qu'est-ce que tu vas nous faire, toi? Parce que tu vas être un professionnel. Tu vas nous sortir de ce mauvais pas?
Je vais essayer, je vais tout faire pour. Déjà d'abord mes enfants, pour commencer. Bon, après, ouais, je pense que ce serait un bon exercice d'avoir des expériences de radio, de communication entre les étudiants pour se libérer un petit peu, se détacher de... un petit peu la communication standard et essayer d'arriver à un niveau supérieur pour même autant ça se répercute autant à l'écrit qu'à l'oral dans la vie de tous les jours. Ça permet d'avoir d'être plus pertinent, déjà d'être plus agréable à écouter quand on parle à des gens ou quand on a un oral, que ce soit en cours ou un entretien d'embauche aussi. Ça permet d'être beaucoup plus à l'aise autant avec soi que face à un public, tout simplement, je pense. Ce serait vraiment une bonne expérience, une bonne solution.
Alors c'est vrai qu'une fois qu'on est dans l'université, on peut avoir des pratiques un peu différentes. Et je vois dans certaines facs ici, enfin dans certaines formations, on a des étudiants qui s'organisent pour parler dans un langage français, mais très élaboré. Et ils font entre eux des petits concours de joute oratoire, on va dire, où ils prennent un thème, ils le développent, ils le défendent, ils argumentent. Et l'idée, c'est de permettre d'être le plus convaincant possible. Donc voilà, on est sur l'utilisation, l'exploitation de la langue pour argumenter, convaincre. C'est quelque chose d'important.
Oui, c'est comme les concours d'éloquence qu'on retrouve souvent dans les facs de droit, oui.
Et est-ce que ça peut être fait, par exemple, avec Benjamin en troisième? Est-ce que tu sens ça possible?
Ah oui. Oui, dès la fin du collège, au lycée, ce serait même plus pertinent, je pense.
Benjamin, tu es prêt à défendre un projet auprès de tes professeurs en disant on va organiser un concours d'éloquence dans notre collège ou plus tard au lycée?
Moi, ça m'intéresserait bien d'en parler, oui, effectivement. Après, il faut voir s'ils sont d'accord. Ouais.
Alors, quand tu dis ils sont d'accord, est-ce qu'on peut demander des choses à des profs quand on est au collège?
Ah, c'est assez délicat. Disons que dans le cadre de nos cours, oui, on peut, oui, mais en dehors, c'est un peu plus compliqué. Oui.
Vous avez des délégués de classe?
Oui, on a des délégués de classe.
Est-ce qu'ils ont le droit de faire des propositions ou bien ils sont là juste pour écouter?
Ils ont le droit de faire des propositions, ils récoltent un peu toutes les propositions de la classe et ils peuvent en parler au conseil des délégués. Oui.
Voilà, donc toi, tu peux très bien proposer une idée au délégué que lui va porter, présenter.
Effectivement. Oui.
Voilà. Donc, tu le notes pour l'année prochaine ou même cette année, pourquoi pas?
D'accord.
Voilà. Grégoire, on revient un petit peu à cet art de l'oral, hein, l'art oratoire. Est-ce que tu ne crois pas que, justement, il y a certaines catégories de jeunes qui sont sensibilisés, formés à ça, et que ça ne crée pas l'écart avec ceux qui parlent en texto ou en SMS, voilà quoi.
Ah, si. Si, je pense quand même, ouais. Parce qu'après, ça devient un petit peu une norme, ça devient une habitude d'avoir, sans forcément même s'en rendre compte, d'utiliser des mots compliqués, de plus de 3 syllabes, de plus de 8 lettres. Des fois, c'est pas. Je dis ça un petit peu de façon péjorative, mais c'est pas forcément, on va dire, à la portée de tout le monde. Et ça peut même arriver de voir des gens se sentir offensés, enfin, certaines personnes offensées. Enfin, après, là, c'est des cas vraiment extrêmes, évidemment. Mais je pense que c'est une bonne chose, c'est avoir du langage, avoir du vocabulaire, c'est un petit peu des clés pour acquérir de la culture plus facilement, avoir plus facilement accès à des ouvrages ou même pour soi, enfin pouvoir réussir à mieux se documenter si on n'a pas eu des bases, si on n'est pas sorti de l'enfance avec un bagage culturel assez conséquent, quoi.
Est-ce que tu as l'impression que lors d'un entretien d'embauche, par exemple, la personne qui maîtrise mal le langage ou qui va mal se présenter, qui va hésiter, qui va balbutier, qui va avoir un langage très réduit, peut être mis à l'écart par rapport à d'autres?
Ça peut être pénalisant, oui. Mais après, c'est surtout pour les questions de culture générale. Si ça arrive à un employeur ou dans le cadre d'un recrutement d'une école, dans des questions de culture générale, c'est quand même mieux d'avoir. Enfin, culture générale, ça apporte en même temps du vocabulaire, forcément. Donc, je pense que ça va de soi. Les deux vont de soi.
Alors, Benjamin, toi, tu es en troisième, c'est-à-dire que pour l'instant, tu n'as pas de spécialité. Hein, on va dire que tu as
Non.
une culture générale, globale.
Voilà, oui.
Est-ce que tu veux te projeter dans un univers plus précis par la suite?
Dans l'audiovisuel, oui, j'aimerais bien.
D'accord. Donc l'audiovisuel, c'est large, hein, donc
Oui.
peut-être tu vas suivre le chemin de Grégoire alors.
Je ne sais pas.
Je vous laisse échanger
Oui.
après, il va te donner des combines là pour gagner un peu de temps. Est-ce que tu as l'impression en troisième hein, que derrière les élèves, on a des gens qui peuvent vous aider pour réfléchir à votre orientation future ou tu te sens un peu démuni de ce côté-là?
On a des spécialistes au collège, comme ce qu'on appelle la COP, la conseillère d'orientation psychologue, qui nous aide à avoir une meilleure idée de notre orientation et des futurs vœux qu'on y propose.
Est-ce que tu crois que déjà avoir une idée au départ de ce que tu veux faire, là ça devient précis pour toi, c'est un avantage? Est-ce que ça peut te donner plus d'énergie que d'attendre que les choses viennent comme ça, on ne sait
Oui,
pas
c'est
trop?
un avantage, oui. Plus on est passionné par notre métier et plus on s'y prend tôt. Et je trouve qu'en étant passionné, on peut mieux réussir et ce serait pour moi un grand atout.
Alors comment tu vois justement, on va dire, une certaine spécialisation, hein, tu dis par un métier, mais en même temps la nécessité d'avoir une culture large, comme le disait Grégoire.
Oui, effectivement, on doit toujours savoir rebondir si jamais on n'arrive pas dans un milieu. Et le fait d'avoir une culture large, excusez-moi, c'est très utile, oui, je trouve.
Voilà. Donc quand on parle qu'un métier, on ne peut plus vraiment le conserver toute sa vie maintenant, enfin tu vois, il y a un peu cette idée-là qu'il va falloir changer peut-être 3, 4, 5 fois de métier, tu penses que c'est la culture globale qui permet justement de s'adapter à autre chose?
Aujourd'hui, garder un métier, c'est de plus en plus compliqué, d'après ce qu'on entend dans les médias. Mais je pense que enfin, il suffit de bien faire son métier, je trouve. Et quand on est vraiment passionné et qu'on se donne du mal, on peut arriver à tout.
D'accord. Grégoire, sur l'idée de la culture générale et de son importance?
C'est important, oui.
Oui. Alors, donc, je vais prendre quelques exemples, hein, d'accord. Donc, on a parlé de médias, etc. Est-ce que, par exemple, la littérature, ça vous paraît encore quelque chose d'intéressant?
Alors, oui. Je pense, oui, quand même. Là encore, pour en revenir encore aux concours, aux préparations pour les grandes écoles, c'est vraiment un bagage culturel indispensable pour rentrer, se démarquer de ses concurrents et remplir dans les critères des examinateurs. Et la littérature, oui, c'est important.
Et en termes d'idées, est-ce que quand tu lis un livre, il y a des choses qui rentrent dans ton esprit plus facilement que quand tu regardes un film ou autre?
Oui, c'est un univers qu'on s'approprie. C'est un univers qu'on imagine. Quand on lit, on s'imagine, par exemple, la scène au début dans La Bête humaine de Zola, le début, quand Zola décrit la gare, même si Zola décrit très bien ses histoires, c'est la gare, on se l'imagine soi-même. On s'imagine le train, on peut s'imaginer la couleur, on peut s'imaginer le profil, la densité des personnes qui sortent du train. On peut s'imaginer aussi le temps, le bruit, tout l'imaginaire sonore. On a ses cartes blanches, en fait, d'une certaine façon. Il nous donne le fil conducteur et le reste, ses cartes blanches, on se fait son propre film, d'une certaine manière.
Evie, est-ce qu'en Angleterre, on lit encore de la littérature française? Est-ce qu'il y a des auteurs que tu connais, même s'ils sont traduits en anglais?
Pardon?
Est-ce que dans la littérature française, il y a des auteurs, des écrivains, même anciens, hein, que tu connais et que tu aimes?
Les auteurs français, je ne sais pas beaucoup, car je ne sais pas trop.
Si je te dis, par exemple, Victor Hugo, ça te dit quelque chose?
Je sais Albert Camus.
Albert
J'ai
Camus.
Lu L'étranger, oui. Mais je pense que c'est tout. Je ne sais pas beaucoup de français auteurs.
Et donc, ton auteur anglais favori?
Probably Stephen King.
Ouais.
Je sais, ouais.
Mm-hmm. Ouais. Shakespeare, non?
Non.
Pas trop. Est-ce que le théâtre de Shakespeare, que nous on voit encore beaucoup en France, ça t'intéresse?
J'étudie ça en anglais et je suis étudiée Othello maintenant, mais je pense que c'est trop difficile de lire, je ne trouve pas ça.
Et quand c'est sur scène, un spectacle de théâtre, c'est plus facile pour toi?
Oui, j'aime le théâtre, mais c'est sur Shakespeare.
D'accord, pas forcément Shakespeare. D'accord. Est-ce que tu crois que dans les personnages de Shakespeare, actuellement, il y a encore des logiques comme ça, des affrontements, des gens qui s'opposent, des choses qui sont très, on va dire, très puissantes, très fortes, beaucoup d'énergie, beaucoup de... C'est énorme, oui. Shakespeare. Oui. Est-ce que tu crois que la société est encore comme ça, plus ou moins, ou pas? Ou elle est pacifique, tranquille, on ne parle plus de rien, il n'y a plus de guerre en Angleterre, il n'y a plus rien. Oui. Comment tu vois les choses?
J'aime le plot, je ne sais pas si...
Le sujet principal.
Oui, j'aime le sujet L'intrigue. Principal de Shakespeare, mais c'est le langage que je trouve difficile.
Ouais. Ouais. En fait, tu veux dire que le langage de cette époque-là, le langage de Shakespeare, ce n'est plus du tout un langage que vous utilisez.
Non, c'est pas même similaire. C'est beaucoup d'éléments et très différents en anglais maintenant.
Bien sûr.
Ouais.
Alors, si je prends par exemple Grégoire ou Benjamin, vous avez peut-être lu Molière ou des gens comme ça. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose de plus facile en termes de langage que Shakespeare, par exemple?
Il y a aussi des différences entre le langage de Molière et le nôtre maintenant. On appelle ça l'ancien français, oui. Il y a des mots qui sont très compliqués. Et d'ailleurs, on se rend mieux compte quand on lit un livre ou une pièce de théâtre, comme de Molière, il y a des passages qui sont compliqués à comprendre pour nous étudiants.
Oui, je m'en souviens avec grande douleur, oui.
Alors, le fait aussi de parler en alexandrin, etc., des vers, des rimes, etc., est-ce que c'est quelque chose d'intéressant maintenant ou est-ce que c'est fini tout ça pour vous?
On entre dans la poésie, là, mais avec les jeunes, je pense qu'ils ne sont pas trop calés là-dessus, non.
D'accord. Est-ce qu'il y a des poètes quand même parmi vous? à l'école, naturellement poète, je veux dire, pas forcément des gens qu'on oblige à apprendre.
Non, il n'y a, y a, ah, y a oui, pas de personne.
Moi, je vois vraiment... Il y a un grand poète dans ma classe, oui, il s'appelle... c'est mon camarade, il s'appelle Augustin Vermeau. C'est un grand poète. Naturellement, il lui arrive de parler et de sortir ce genre de phrase qui est naturellement belle, naturellement belle. Je ne saurais même pas dire pourquoi, mais oui, vraiment, vraiment belle.
Alors, on vit dans un monde très matériel, hein, finalement, où il faut avoir... on peut en débattre, d'ailleurs. Hein. Est-ce que l'aspect, on va dire, romantique des choses, les sentiments, c'est encore quelque chose qui a une valeur pour toi? Est-ce que c'est encore important, les sentiments, le romantisme?
Oui, les sentiments ont beaucoup de valeur, mais il y a aussi des autres choses qui ont valeur dans la littérature, oui.
Je trouve que ça se perd beaucoup avec le temps et surtout maintenant, et c'est vrai que c'est assez dommage.
Oui, bah les sentiments, l'affect, c'est un petit peu, bah je vais dire une phrase à la Augustin du coup, c'est un petit peu ce qui donne sens au reste, quoi. Enfin, à tout ce qu'on fait, toutes les petites abstractions du quotidien, ouais, les sentiments, c'est... Ouais, c'est ce qui fait le sens, ce qui fait le lien, la jonction, quoi.
Les sentiments, c'est ce qui fait la vie.
Oui, absolument.
Voilà. Donc, est-ce que les sentiments, on les retrouve très présents dans vos amitiés, dans vos amours? Est-ce que c'est quelque chose qui crée la relation?
Moi, personnellement, oui. S'il y a du sentiment, oui. Que ce soit affectif, enfin, sur le plan. Amical, oui, il faut qu'il y ait quand même un certain lien, enfin, qu'il y ait du partage, qu'on ait des choses en commun, qu'on ait des valeurs communes, quoi.
Evie, avec tes amis, tu sens des sentiments quand tu leur parles, quand tu es avec eux?
Oui, quelquefois, mais toujours, c'est pas direct. Oui.
En français, les gens sont plus directs, tu crois, en France?
Je pense qu'une différence assez grande entre Angleterre et France, c'est le sentiment, parce que je pense que c'est beaucoup plus direct en France et j'aime ça.
D'accord. Et Benjamin, le sentiment pour une classe de troisième, c'est quelque chose qui existe, qui est partagé?
Oui, ça existe. Oui, je rejoins mes camarades. C'est vrai que quand on parle entre camarades, il y a des sentiments qu'on peut ressentir, oui, effectivement.
Bon. Alors, on va aborder peut-être le dernier sujet, quoique moi je ne me lasse pas hein, de prendre vos informations, vos idées, d'y réfléchir ensemble. Comment vous voyez l'avenir? Alors, on est dans un moment, on va dire, assez matériel, où les gens aiment bien avoir, acheter. On est dans une société de consommation depuis au moins 30-40 ans, même plus. Hein. Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui vont changer, qui sont en train de changer? Est-ce que le monde peut éventuellement avoir d'autres valeurs que acheter, consommer?
Moi, je pense qu'on entre bientôt dans une nouvelle ère. Je vais appeler ça l'ère 2.0. Il y a de plus en plus d'ordinateurs, de robots, des trucs automatisés. Et je pense que ça va se faire de plus en plus dans les années à venir.
Oui, je pense qu'à l'avenir, j'espère que les politiques sont privées en Angleterre. Mais c'est difficile de ça. Oui.
Comme la formule... Dis-moi qui tu es, je te dirai ce que tu possèdes. Enfin, je pense que c'est encore beaucoup d'actualité. On juge encore beaucoup quelqu'un par rapport à ce qu'il possède, à ce qu'il a, de quoi il a l'air surtout. C'est surtout de quoi il a l'air. J'avais vu une étude où des gens seraient plus disposés à suivre une Porsche qui grille un feu rouge plutôt qu'une 205 par exemple, ou qui seraient plus aptes à suivre quelqu'un en costard donnant une information sur un chemin, ou dire on serait plus apte à suivre quelqu'un en costard si un groupe était perdu plutôt que quelqu'un en survêtement.
Alors justement, Grégoire, puisque toi tu Tu as comme domaine l'information et la communication. Est-ce que tu fais une différence fondamentale entre les deux? Et est-ce que tu peux nous dire, par exemple, en termes de communication, est-ce qu'on est actuellement dans un environnement qui nous permet encore de choisir ce qu'on aime?
Entre l'être et le paraître.
Ouais, puis. Par exemple, on nous impose ou non des choix. Enfin, est-ce qu'on nous donne des modèles qui ne sont pas forcément des modèles universels? On nous impose finalement de ne pas choisir, mais de devoir acheter ci ou ça, non?
Je pense que les choix sont intrinsèques. Si on arrive dans un certain milieu, on arrive dans un certain milieu si on possède certaines choses. Enfin, vous voyez, comme par exemple, j'aurais pas d'exemple tout de suite, mais je pense que oui, il y a encore beaucoup maintenant, encore plus maintenant plus que jamais, une histoire de déterminisme un petit peu. Enfin, si il faut un certain bagage pour arriver à une certaine destination maintenant, encore plus maintenant, et ça risque pas de s'améliorer.
Alors, Benjamin, est-ce que tu remarques dans ton collège, par exemple, que les élèves se mettent en phase, on va dire, se regroupent par rapport à ce que font leurs parents, s'ils ont de l'argent ou pas, ou est-ce que c'est mélangé?
Non, c'est totalement mélangé. Je vais même dire qu'on ne sait pas du tout si les autres sont pauvres ou riches, ce que font les parents. C'est vraiment mélangé.
Evie, en Angleterre?
Oui, en Angleterre, quoi.
Est-ce que les gens se mettent de la même société ensemble? Tu vois ce que je veux dire? Ceux qui sont riches
Oui,
restent
je
entre eux
pense
ou pas?
que. Oui, je pense que c'est. En society, c'est pas beaucoup d'autres groupes, je pense.
Voilà. Est-ce que vous avez une idée positive de l'avenir ou pas?
C'est difficile de penser. Je pense que il y a opportunité pour un positif avenir, mais c'est pas défini.
Benjamin, à 14, 15 ans, est-ce qu'on a des perspectives d'avenir?
Je pense qu'on a un bel avenir devant nous, effectivement.
Ben oui, si vous ne l'avez pas, qui l'aura?
Oui.
Et Grégoire, de ton côté?
Oui, l'espoir fait vivre.
Voilà, ben je vous souhaite une très belle continuation de vie avec
Merci beaucoup.
des espoirs qui se
Merci.
réalisent.
Merci.
Excellente journée.
Merci.
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 Vous écoutez Radio Campus 106.6 FM.